tous. Bonjour, bonjour. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu à la bourre ce matin. Il faut juste que je partage du coup le lien sur Facebook et après, je suis à vous. J'espère que vous êtes en forme en ce mercredi matin. La semaine passe à toute vitesse. Et donc voilà, TechScope, c'est maintenant. J'écris le petit mot, je partage. Normalement, tout est bon. Voilà, normalement, c'est partagé. Hop, est-ce que le message a bien été publié? Un petit peu galère hein, ce matin. Hop, mais c'est pas grave. Je vérifie. C'est bon, ça a été publié. Je peux revenir à nos moutons. Bonjour, bonjour Émilie-Marie, Android Windows, Frédéric, Samuel, Run Game, salut Léo, salut Microbe, salut Le Tutorien, salut J. Pulmo, salut Olivier, salut Technisavoir. Les valises sont prêtes, absolument pas. Tu ne vois pas le reste de mon appartement, mais c'est une explosion d'affaires car je dois faire mes valises et j'ai pas encore eu le temps de les faire. Donc non, c'est pas encore prêt, non. Salut Patrick, salut Sylvain, salut Sylvain, on se voit tout à l'heure a priori. Les collègues qui sont dans la place, salut Axel, salut Zet Nickel, salut Jean-Claude, salut Davis, salut Julien, bas de gamme. J'ai dit bas de gamme au lieu de bas de gamme. T'essayes de me faire trébucher. Voilà. J-1 avant les vacances, ouais. Non, mais me mettez pas le stress, je suis pas encore prête. Je suis pas du tout encore dans le mood. Demain sort on.04. Il faudra que tu nous fasses une petite update, Léo, sur ce que ça veut dire du coup avec cette nouvelle sortie. Salut Schnouz. Whisky du voyage? Non, Whisky, il va avoir un pet-sitter à disposition pour lui rendre visite chaque jour pour pas qu'il se sente trop seul. Mais non, il va pas venir sur les îles grecques avec nous. Ça risque d'être un peu compliqué. J'imagine Whisky dans le sac à dos avec sa petite tête qui sort. Je suis pas sûre qu'il apprécie beaucoup. Pendant les vacances, Whisky prend le relais. Pas sûr que vous voyez un peu l'énergie qu'il a le matin. Là, vous voyez, il nous fait la tête d'ailleurs. Il n'en a rien à faire de vous parce qu'il vous tourne le dos. C'est pour dire. Donc, le respect de la chatroom, je ne suis pas sûre qu'il soit là. Hein. Salut Bastien. Donc voilà, donc bienvenue sur ce nouveau TechScope. Je suis ravie de vous retrouver juste avant les vacances. Il y aura le dernier TechScope encore en compagnie de Jérôme demain matin. Donc n'oubliez pas. C'est pas moi qui le porterai, Whisky. C'est pas sympa, Jérôme. Je suis sûre que si on pèse Whisky dans un sac et le sac avec tous tes objectifs et tout ton matériel, je suis pas sûre que Whisky soit plus lourd, tu vois. Enfin bon, voilà. On n'oublie pas ce matin de remercier très chaleureusement nos fidèles tipeurs. Et aujourd'hui, on va remercier tout particulièrement 5 tipeurs. C'est Loïc, Pierre, Denis, Gauthier et Alex Webb ce matin que l'on remercie chaleureusement de nous soutenir sur Tipeee et de nous permettre de continuer l'aventure Naotech avec des nouvelles choses qui arrivent pour la chaîne. Beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, sinon je vous en parlerai dans l'annonce tout à l'heure. Oui, mais faire une photo avec Whisky, c'est bof bof. Oui, ben disons que c'est pas un appareil photo, quoi, c'est sûr. J'ai déjà croisé une japonaise avec son chat dans un sac à dos aménagé pour le chat. Bah ouais, moi j'ai un sac à dos hein, spécifique pour le transporter. Ça fait moins mal que transporter la caisse à bout de bras. J'ai un sac à dos pour le transporter, mais bon, il n'est pas fan fan quoi. Il préfère rester tranquille, pépère chez lui hein, quand même. Donc je ne vais pas non plus lui imposer les îles grecques. Salut Michelina, j'espère que tu vas bien. Voilà. De quoi va-t-on parler ce matin? Il faut quand même que je vous fasse un petit peu le sommaire. Alors, on sent que l'actu tech en ce moment n'est pas hyper, hyper active. C'est vraiment la phase un petit peu avant la période mai-juin où on a un peu toutes les keynotes des grandes marques et des grands constructeurs. Donc là, c'est un poil plus calme. à part quand on a des mauvaises nouvelles. Et donc on va commencer avec une mauvaise nouvelle, c'est le piratage, ou en tout cas le détournement d'Ether à travers une attaque DNS, voilà, donc qui s'est passée sur MyEther Wallet. Donc MyEther Wallet n'est pas responsable, ça ne vient pas d'eux, ça ne vient pas d'une faille du site internet, mais en tout cas les utilisateurs qui utilisaient MyEther Wallet ont, pas tous, hein, mais certains ont été redirigés vers un site frauduleux qui a pu récupérer leurs clés. Et donc, a priori, ça serait 125 000 euros d'Ether dérobés suite à cette attaque. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure pour connaître un peu mieux les détails de ce que l'on sait pour l'instant sur cette affaire. Et puis, on continuera avec quelque chose d'un peu plus, comment dire, positif, et de confiance aussi, on va dire. Est-ce que vous faites confiance à Amazon jusqu'à leur donner les clés de votre voiture? Alors, c'est pas vraiment donner les clés, mais en gros, vous donnez accès à Amazon, à votre voiture, pour qu'ils puissent vous livrer directement dans le coffre de la voiture. Et ben voilà, c'était un petit peu des projets qui étaient dans les cartons. Et ben maintenant, c'est plus un projet, c'est carrément en test dans 37 villes. Donc on verra un petit peu comment ça va fonctionner justement. Oui, what? Après les clés de votre maison, ce sera les clés de la voiture. Parce que je vous rappelle qu'ils avaient aussi fait un test pour directement livrer les colis chez vous. Alors c'était pas en France, c'était plutôt aux États-Unis, mais ils l'avaient fait aussi. Et puis on reviendra, donc là on parle un peu d'Amazon, mais on parlera aussi d'un autre géant de l'e-commerce auquel on ne pense pas forcément suffisamment souvent, on va dire, c'est Alibaba. Alibaba qui est évidemment le géant chinois, mais qui est énorme, et on rappellera un petit peu les chiffres en termes de comparaison, et qui a des pratiques commerciales douteuse, on va dire. Certaines marques commencent à se plaindre concernant leurs pratiques, justement, et on reviendra un petit peu là-dessus sur possiblement une concurrence assez déloyale qu'ils appliquent par rapport aux plus petits acteurs sur le marché. Et Alibaba et les 40 voleurs. Joli Pascal. Et puis on continuera cette fois-ci avec Lyft qui, eux, jouent aux gentils élèves, justement en promettant de compenser l'impact de leur empreinte carbone ou de l'empreinte carbone des différents trajets Lyft à leur manière. Ils vont les compenser justement en faisant des investissements dans des projets qui visent à réduire justement l'impact carbone, l'empreinte carbone. Donc c'est assez intéressant comme démarche, et on verra un peu, on discutera un peu plus de Lyft, leurs différentes actions, comment ils se situent un petit peu sur la place publique, on va dire, par rapport à Uber, qui a été un petit peu victime de backlash, victime entre guillemets et responsable de leurs actions quand même, hein. On va pas non plus les plaindre, mais voilà, comment Lyft se situe par rapport à Uber, et quel type d'initiative ils ont réalisé jusqu'ici, et qu'est-ce qu'ils pensent faire dans le futur. Salut Robin. On continuera ensuite avec Instagram. Instagram, alors des petites news, voilà, on fait un petit peu le plein de petites news avec Instagram, notamment une nouvelle fonctionnalité qui est en accord avec l'arrivée du RGPD. Voilà, c'est la possibilité d'exporter vos données Instagram et de pouvoir les récupérer, hein, tout simplement. Donc ça risque de faire plaisir à certaines personnes qui ne souhaitaient pas perdre les photos, justement, et toutes les informations et photos qu'ils ont partagées sur Instagram. Vous aurez un moyen désormais pour les récupérer, donc ça c'est plutôt bien. Et puis des nouvelles petites fonctionnalités qui viennent enrichir un petit peu les stories d'Instagram, tout simplement. Oui, des newsinettes, des petites newsinettes. Désolée, il n'y a pas le sommaire dans la description. Android Windows, c'était trop rapide pour moi. J'ai pas fini le sommaire. On est encore dans le sommario. Il est que 8h10, hein, normal. Et puis, on continuera avec Google et Android. Google qui va changer, l'emoji du gun, du pistolet, qui était présent, hein, dans sa famille d'emojis, et qui va suivre du coup les pas d'Apple, de Twitter, de Samsung, qui eux aussi ont mis à jour leur emoji gun. Donc voilà, On verra pourquoi ils le font et finalement qu'ils ont plié à l'initiative d'Apple. C'est pas franchement copier, c'est suivre le mouvement plutôt. Là, on ne peut pas leur reprocher de copier, on verra pourquoi tout à l'heure. Et puis, on reviendra sur une affaire qui a agité Internet. C'était justement la poursuite d'un photographe animalier qui avait pris en photo des singes et un singe qui avait à un moment donné pris l'appareil de lui-même et avait fait des selfies avec. Et à la suite de cette petite aventure, le photographe avait publié un livre qui regroupait les selfies et les photographes du singe. Et du coup, PETA avait fait une action en justice pour défendre les droits de ce singe. Et on verra que la cour a rendu son verdict. Voilà, on saura enfin le fin mot de l'histoire si on a protégé les droits de ce singe. Le photographe avait perdu beaucoup d'argent. Bon, le photographe s'est fait aussi du fric en publiant des photos qui n'étaient pas les siennes. Je vois Marion, je me dis que normalement c'était Jérôme qui était prévu le jour du départ. Normalement, j'étais persuadée d'être jeudi. Eh bien oui, Chris, tu es encore un petit peu décalé. Jeudi, c'est demain. Tout à fait, c'était un procès symbolique. Tout à fait, Jérôme. Est-ce que le singe a gagné? Ben, le singe ne s'est pas. Voilà, il n'était pas là pour se défendre. Hein, voilà. C'est pas lui qui a initié l'attaque en plus. Hein. Je précise au cas où. Voilà pour le sommaire ce matin. Je vous propose de commencer avec la première news. Eh bien, tout simplement, ça concerne le nom de domaine MyEther Wallet qui a été piraté. Hein, il a été détourné par des pirates. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, c'est les personnes qui utilisent les DNS de Google qui ont été victimes du hack. Tout simplement, ces DNS qui permettent de lier, voilà, comment dire, un nom de domaine à une adresse, en fait, ces DNS ont redirigé vers un autre nom de domaine. Du coup, voilà, ça s'appelle donc le DNS hijacking, tout simplement. Et ça a pointé vers un autre domaine, vers un site russe notamment. Du coup, c'est assez problématique parce que ça a permis de récupérer des Ethers, de détourner des Ethers. En effet, il ne fallait pas utiliser les DNS de Google, mais bon, tout le monde n'est pas expert. Alors, un autre moyen de le savoir, c'est tout simplement en regardant, en faisant bien attention, pardon, au certificat SSL. Alors, comment vous pouvez le voir? Tout simplement, je peux vous montrer l'image. Le certificat SSL, lorsque vous vous rendez sur une URL protégée, vous voyez bien que c'est MyEther Wallet. Il suffit pas de voir cette barre verte. Il faut bien vérifier que ça correspond bien à MyEther Wallet pour être bien sûr que vous êtes sur le bon service. Excusez-moi. Voilà, donc il faut bien vérifier ça. Ça a duré quand même quelques heures. Donc, c'est assez problématique. Donc, pour rappel, MyEther Wallet, c'est un service de cloud, de wallet cloud. Il a été victime donc, de ce détournement qui s'est déroulé hier, tout simplement, pendant quelques heures, et qui a donc permis de détourner 125 000 euros d'Ether. Donc, c'est quand même pas rien. Tout simplement, lorsque vous essayez, soit si vous aviez dans vos favoris MyEther Wallet ou si vous essayez d'y accéder, si vous aviez les DNS de Google, vous étiez redirigé malheureusement vers le site pirate qui récupérait donc les Ethers. Ceux qui avaient des clés physiques, tout ce qui est Ledger alors je sais plus, Ledger et Trezor, donc utilisent des portefeuilles physiques qui permettent de débloquer et de sécuriser vos Ethers, vous n'êtes pas a priori en danger par rapport à ça, par rapport à cette opération. Par contre, il est possible que les pirates aient remplacé les adresses. Adossé au périphérique. Donc, faut bien vérifier quand vous faites vos prochaines transactions, quand vous y accédez, que tout est bien sécurisé. De toute façon, n'hésitez pas à vous rendre sur les comptes Twitter de Ledger et Trezor parce que chacun a mis en place une page pour donner plus d'informations sur le sujet, sur ce qui s'est passé et sur la sécurisation de vos éthers. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place pour voir comment ça se passe. Et pour ceux qui ont peur un petit peu pour leurs éthers, qui utilisaient le service MyEther Wallet, n'hésitez pas à vous rendre maintenant sur le site internet. Ils ont réglé le problème. Encore une fois, je rappelle que ça ne vient pas du service MyEther Wallet, mais c'est en gros, on a piraté Internet, le fonctionnement même d'Internet pour pouvoir détourner ça. Ça ne vient pas d'une faille du service, donc c'est pour ça que c'est problématique. Et donc, ils expliquent aussi sur leur site internet, ils informent un peu plus sur comment mieux sécuriser un petit peu vos transactions et vos accès, tout simplement. Voilà, donc c'est pas la première fois hein, que ça arrive. Il y avait eu un autre service. Alors, il faut que je retrouve, je ne sais pas si je vais les trouver. Il y avait un autre service il y a quelque temps qui avait été où des crypto-monnaies avaient été détournées de la même manière. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors attendez, j'essaie de retrouver. Non, ils n'en parlent pas là. Je l'avais lu dans un des articles ce matin. Voilà, donc ce n'est pas la première fois hein, qu'on a ce genre de choses. Mais voilà, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'éthers qui ont été détournés, qui ont été ensuite déplacés vers d'autres différents comptes et qui ont été déjà, c'est des comptes qui ont déjà été utilisés pour récupérer des crypto-monnaies détournées, quoi. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre MyEther Wallet sur Twitter, Ledger et Trezor pour ceux qui utilisent ces clés physiques, ces périphériques physiques pour protéger leur crypto-monnaie. Vous aurez plus d'informations. Voilà. Voilà pour ce qui s'est passé avec MyEther Wallet. Est-ce qu'il y en a qui utilisent ce service-là? Ou est-ce qu'il y en a qui utilisent justement Ledger et Trezor? Moi, je sais que j'ai pas mal de collègues qui utilisent Ledger. On en a déjà parlé. Oui, les DNS, c'est ce qui fait le lien entre les URL et les adresses IP, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Toi, Papa Geek, toi, tu l'utilises? C'est l'éther à la lune. L'éther? Ah! Pff, ok. Désolée, j'ai toujours un moment de... Quand ça atteint le cerveau, quoi. Il me faut toujours un temps. Ils ont été nullement volés, les éthers. Ils ont été détournés. Si un jour j'ai des crypto-monnaies, j'utiliserai une sécurité physique. Oui, moi c'est ce que j'ai compris aussi. Enfin, en tout cas, mes collègues ne sont pas non plus des experts, mais ils s'y connaissent un petit peu. Ils m'ont dit au moins, voilà, avec une clé physique, il faut vraiment avoir accès physiquement à la clé, quoi. L'éternelle question de la sécurité. Je lis le tutoriel. Voilà pour l'information. Bon, vous n'avez pas l'air trop concerné par l'affaire, donc tant mieux. Et voilà, surtout renseignez-vous si vous vous lancez sur des crypto-monnaies sur le meilleur moyen de sécuriser justement vos crypto-monnaies et vos transactions. Toujours faire attention. Voilà pour MyEther Wallet. Je pense que vous allez avoir pas mal de choses. Oui, il paraît que ça parle de crypto. Eh ben, c'est fini maintenant, langue de geek. Tout à fait. On a parlé de ce qui s'était passé avec MyEther Wallet ce matin. On continue avec Amazon. Amazon qui, vous le savez, avait testé déjà avec certains utilisateurs d'Amazon Prime, des privilégiés qui avaient été sélectionnés, pour tester la livraison chez vous à votre porte, et donc il pouvait débloquer votre porte d'entrée, hein, de votre logement, maison, appartement, etc. Débloquer la porte de votre logement pour pouvoir déposer vos colis tout simplement directement chez vous. Et comme ça, quand vous rentriez le soir, vous aviez directement votre livraison. Je parie que c'est quelque chose qui plairait à Jérôme Kenborg, vu le nombre de livraisons qu'il a. Et donc voilà, ils testent ça et là ils essayent de tester un autre moyen de livraison. Vous savez qu'Amazon a vraiment une problématique hein, sur la dernière étape de l'expérience utilisateur chez Amazon. C'est évidemment lorsqu'on a tout acheté, etc. C'est la livraison, la réception justement de l'achat. Et là, ils vont essayer de le tester directement dans le coffre de votre voiture, de votre véhicule. Donc ça, c'est assez intéressant, mais ça pose aussi de nouvelles contraintes pour Amazon. Alors, les contraintes, c'est évidemment, il faut être, en tout cas, comment dire, les critères pour pouvoir faire partie, évidemment, du panel de test, c'est être un membre Amazon Prime, évidemment. Après, là, pour l'instant, ils le testent dans certaines villes des États-Unis, hein, dans 37 villes très exactement, à partir d'hier, voilà. Et tout simplement, il faut aussi avoir une voiture qui fait partie de deux constructeurs. Ils ont un partenariat avec deux constructeurs. C'est GM, c'est General Motors, je crois. Hein, General Motors. Je suis pas très bonne en marque de voiture. Mais bref, c'est marque de voiture hyper connue aux États-Unis et Volvo. Oui, Jérôme, merci de me confirmer. Vous voyez combien je suis calée en voiture. Voilà. donc il faut avoir un véhicule General Motors et Volvo impérativement et qui soit un modèle de l'année 2015 ou plus récent encore et qui aura des systèmes OnStar, équipés des systèmes OnStar pour General Motors ou Volvo OnCall pour les véhicules Volvo. Donc il faut avoir un système connecté pour la voiture pour pouvoir justement permettre de permettre l'accès à Amazon au véhicule sous certaines conditions évidemment, mais pour pouvoir avoir plus facilement accès au véhicule et synchroniser un petit peu le déverrouillage du véhicule avec l'authentification, etc., du compte du propriétaire du véhicule, etc. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en effet, il faut pouvoir aussi donner des renseignements sur le véhicule, c'est-à-dire que non seulement ça sera soumis à ce que le véhicule soit garé à proximité d'une adresse déjà rentrée dans votre compte Amazon. Ça veut dire potentiellement se faire livrer à proximité de chez vous ou à proximité du travail ou à proximité d'une adresse déjà enregistrée pour valider la livraison. Ensuite, il va falloir évidemment donner des informations sur le véhicule. Comme si vous vous faisiez livrer à une adresse, bah maintenant, il faut renseigner plus précisément où c'est puisque ce n'est pas dans un lieu, mais dans un véhicule. Donc, il faut évidemment donner le numéro de plaque d'immatriculation de votre véhicule. Il faut aussi donner une photo. Une photo et c'était... Est-ce qu'il y avait autre chose? Attendez, j'essaie de retrouver la liste des informations. Je ne vais pas la retrouver. C'était immatriculation, photo... Voilà. Donc on avait dit immatriculation et photo. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut pour pouvoir bien confirmer que c'est la bonne voiture. Après, ces informations vont être croisées aussi avec des informations de GPS pour pouvoir trouver le véhicule. Et ensuite, ça va... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon, à aucun moment, ne va avoir accès au compte ou à l'identifiant pour déloquer le véhicule. Mais ça va être une communication protégée, chiffrée entre le système d'Amazon Key qui va accéder au service de General Motors ou Volvo et qui va de manière sécurisée permettre le déblocage sous plusieurs critères acceptés du véhicule. Donc voilà, ça ne sera pas facilement accessible. Tu ne dois pas te connecter d'une manière ou d'une autre au système embarqué. Exactement, Charles-Henri. Donc c'est pour ça qu'il faut que les véhicules soient équipés d'un système embarqué. C'est pour ça, en effet, que Amazon Key va avoir accès à ça. Sinon, ça veut dire que n'importe qui peut ouvrir la voiture. Non, mais c'est ce que je dis en effet. Il faut avoir une connexion entre le service de General Motors, qui s'appelle OnStar, et le service de Volvo OnCall, pour Volvo. Donc, il va falloir avoir accès à ça pour valider l'accès au véhicule. Et donc, ça va permettre tout simplement de vous faire livrer directement dans le véhicule. Donc, ça, c'est assez intéressant, notamment pour. Alors, on avait des exemples, une femme par exemple qui se faisait directement livrer les couches pour bébé dans son véhicule. Ça permettait à son bébé de ne pas être réveillé chez elle quand le livreur arrivait, parce qu'il n'y avait pas de sonnette qui déclenchait du bruit. Donc, ça permettait de ne pas perturber le bébé. Ou tout simplement une autre personne qui expliquait que ça permettait de se faire livrer les cadeaux d'anniversaire d'un enfant directement dans le coffre sans que ça soit, sans que l'enfant soupçonne quoi que ce soit pour son anniversaire. Voilà des exemples d'usage de la livraison directement dans le véhicule, tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas envie de se faire livrer chez eux et de donner accès à la maison, ça permet aussi voilà, de ne pas perturber soit au travail, soit chez soi, mais de faire livrer dans le véhicule. Ça peut être assez intéressant dans certains cas. Il a pris Charles Père Noël, ouais, tout à fait. Donc à voir, évidemment, si à un moment donné, enfin, vous allez pouvoir suivre la livraison en direct. Si à un moment donné, le véhicule n'est pas disponible, vous pouvez toujours le signaler. Et donc là, le fallback, enfin, l'adresse de repli, le recours pour le livreur, ce sera l'adresse que vous avez spécifiée. Voilà, donc il pourra se renseigner là-dessus. La bonne vieille boîte aux lettres, c'est très bien. Ouais, enfin bon, il y a des grosses limites à cette bonne vieille boîte aux lettres. Hein. Il faut déjà avoir la voiture qui va bien. Ben évidemment, là, ils font un partenariat de 2 ans avec General Motors et Volvo pour tester sur ce laps de temps de 2 ans si ça fonctionne ou pas. Et en gros, ça ne va pas être un service payant hein, qu'ils vont proposer. Ça va être juste un avantage et un atout marketing pour les constructeurs pour dire, voilà, si vous achetez un véhicule General Motors ou Volvo, bah, c'est compatible avec le système de livraison in-car d'Amazon. Donc voilà, c'est un argument marketing supplémentaire. Ça ne sera pas payant, une option payante pour les consommateurs. Je vois bien les voisins qui appellent les policiers pour vol de voiture. Ouais. Bon, après, tu vois, hein, quand c'est un livreur, enfin voilà, c'est des professionnels, quoi. C'est pas une personne lambda. Et tu verras qu'elle vient apporter quelque chose et pas de manière louche essayer de casser ou de pénétrer dans le véhicule, quoi. Attention aux faux livreurs, ouais. Vous n'avez pas l'air du tout emballé par l'idée, en tout cas. C'est sans moi, les voleurs ne mettent pas les colis dans la voiture. Le point relais, ça suffit. Ça fait cher la boîte aux lettres. Désolé, pas confiance, ni maison, ni voiture. Donc ça, je peux comprendre. Attention aux gens qui suivent les livreurs, ouais. Donc voilà pour Amazon qui va tester la livraison in-car, tout simplement. Et du coup, j'ai oublié l'annonce. Donc j'en profite après le deuxième article pour vous faire l'annonce. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, il y a une nouvelle vidéo disponible sur la chaîne qui est assez rigolote, d'une dizaine de minutes. Et vous allez voir, c'est un objet qu'on n'avait encore jamais testé sur la chaîne. Un nouveau type d'objet, on va dire, toujours lié à la tech, mais un nouveau type d'objet pour un nouvel usage, on va dire, et qui arrive. au parfait moment, un blaster tout à fait qui arrive au parfait moment pour la chaîne, car ça nous permet aussi de faire l'annonce générale à ceux qui n'étaient pas encore au courant. Là, une très très bonne nouvelle pour la chaîne qui arrive à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, même si vous n'êtes pas intéressé par l'objet, n'hésitez pas à regarder la fin de la vidéo pour connaître l'annonce pour la chaîne qui est assez importante et qui va amener quelques changements dans la manière de travailler et de produire des vidéos chez Naotech. Et rassurez-vous, c'est une très très bonne nouvelle, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Un test fait par un aspirant YouTuber. Joli, joli, Jérôme. Je vois que ça spoil, je vois que ça spoil dans la chatroom. Je n'ai rien dit, je n'ai pas dit de quoi il s'agissait, mais on donne la marque ici. Un objet que Jérôme n'avait jamais utilisé de sa vie. J'espère pas quand même. Bon, ben vous avez spoilé, comme ça vous le savez. Voilà, un chat connecté fait partie des mises à jour de la chaîne. A priori, non. Derrière toi, il surfe le chat. Ouais, le chat, il est en train de faire sa toilette, là, vous voyez. Tranquille, pépère, sur son arbre à chat. Vous serez encore à la nuit du hack cette année. A priori, oui. On va y être encore, tout à fait. Enfin, je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, Jérôme. Mais a priori, c'est en discussion. Voilà. On continue avec le prochain article. Et le prochain article, c'est un article assez intéressant sur les pratiques commerciales d'Alibaba. Alibaba, hein, pour rappel, c'est le géant e-commerce chinois qui est deux fois plus rentable qu'Amazon et générerait près de 550 milliards de dollars de ventes par an. Voilà, pas mal, hein, pas mal. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, hein, un peu sur la taille d'Alibaba et son influence dans le monde, même si nous, on ne le connaît pas encore très très bien en Europe. Mais voilà, c'est quand même voilà, une croissance hyper impressionnante pour Alibaba et c'est quand même un géant. Mais le problème, c'est que pour les marques, entreprises, sociétés qui souhaitent profiter d'Alibaba et être présents sur le site e-commerce de ce géant, eh ben, il faut vraiment, a priori, accepter les conditions du géant. Hein. Sinon, il y a des représailles qui sont faites et c'est notamment une grande société, donc c'est tout simplement, je peux vous dire le nom de la marque, hein, c'est American Apparel et Footwear qui... Ah non, j'ai pas le nom de la marque, pardon. Mais en gros, c'est une grande marque de vêtements américaine qui a partagé... attends, est-ce que si je clique sur le lien, je vais pouvoir avoir l'information de la marque. Est-ce que j'ai la marque? Bon, je n'ai pas le nom de la marque, mais c'est pas très grave. Mais voilà, en gros, c'est une grosse marque de vêtements américaine qui a été victime des pratiques commerciales un petit anti-concurrentiel d'Alibaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, ils ont refusé de signer un accord d'exclusivité avec Alibaba, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de ne vendre leurs vêtements que sur le site d'Alibaba, mais aussi de pouvoir les mettre à disposition sur d'autres sites e-commerce concurrentiels comme JD.com, qui est un concurrent, hein, bien plus petit qu'Alibaba, mais qui est un concurrent. Et tout simplement, la marque a vu le trafic vers ces annonces baisser de manière drastique, notamment les bannières publicitaires qui disparaissent pour faire les promos, pour promouvoir tout simplement leurs produits. Il n'y a pas d'accès aux promotions spéciales, les produits qui cessent d'apparaître dans les résultats des moteurs de recherche. Tout simplement, l'entreprise a vu qu'il y avait une vente, le pourcentage des ventes qui avait baissé de 10 à 20% par rapport à cette pratique. Donc, il s'agirait a priori d'une sanction de la marque de l'entreprise Alibaba pour n'avoir pas signé un accord de non d'exclusivité, tout simplement, être distribué chez des e-commerce concurrents. Donc c'est assez difficile. Et justement, on voit hein, le mouvement, ce qui se passe, notamment l'impact sur le site internet JD.com. Ce qui s'est passé, c'est que près de 100 marques chinoises seraient sorties du catalogue de JD.com l'année dernière à cause justement des pressions exercées par Alibaba. Donc c'est assez impressionnant. En tout cas, chez nous, je ne suis pas sûre qu'en France, ce genre de pratique soit autorisé. Hein. C'est clairement des pratiques anti-concurrence. Donc je ne suis pas sûre que ça soit, possible de faire ce genre de choses. Ha ha ha, Alibaba font des chinoiseries. Voilà. Donc évidemment, bah, la marque est outrée essaye de mettre en avant ce genre de pratique. Mais c'est vrai que c'est là où voilà, on voit l'ambition du CEO d'Alibaba qui est assez impressionnante. Oui, c'est pas autorisé chez nous, tout à fait. Juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, en 2017, en juin 2017, le patron d'Alibaba avait déclaré à ses investisseurs que son entreprise deviendrait la cinquième puissance économique du monde, donc après les États-Unis, la Chine, l'Europe et le Japon. Rien que ça. Donc sacrée ambition pour Jack Ma, le patron d'Alibaba, ça montre aussi un petit peu les méthodes. Comment dire, de cow-boy qu'il peut emprunter pour son commerce et qui sont assez douteuses, qui peuvent être assez douteuses et qui vont être néfastes notamment au marché chinois aussi. Hein. Ça pénalise la concurrence et avoir un monopole comme celui-ci peut être risqué. Vous n'en avez rien à faire de ce que je dis, vous êtes juste intéressé par le chat qui s'est tourné un peu plus de votre côté, quoi. Incroyable. Incroyable. Oui, le CEO d'Alibaba, c'est Jack Ma, oui. Enfin, en tout cas, ils ne le disent pas dans l'article, mais il me semble, hein. Donc ils veulent battre Amazon et Apple, easy. Bah tu sais déjà avec la croissance et le volume de vente qu'ils font, je veux dire, faut pas sous-estimer hein, la puissance chinoise justement. Hein. Faut pas sous-estimer hein, là-dessus. Mais non Marion, tu es notre soleil du matin. Whisky, la star du Texcop, tout à fait. Il dort là, mais. Imperturbable, imperturbable le chat. Voilà pour Alibaba. On continue après avoir parlé du grand méchant Alibaba. Non, je caricature évidemment. On va parler de l'ange Lyft. Je caricature encore, évidemment. Donc c'est Lyft. Lyft, c'est quoi? C'est un service concurrent d'Uber, tout simplement. C'est le deuxième d'ailleurs à l'échelle. Alors j'ai peur de dire une bêtise sur à l'échelle mondiale parce que Lyft n'est pas disponible partout. Donc on va rester sur le marché américain. Bah oui, a priori c'est ça. Donc Lyft, qui a été fondé en 2012, est une compagnie de VTC, donc évalué à 11 milliards de dollars et qui est en deuxième position dans le domaine après Uber. Donc rien que ça, alors que c'est pas disponible partout dans le monde. Hein. Donc c'est assez impressionnant. Ce qui s'est passé, donc vous, vous connaissez pas trop Lyft, moi j'en ai fait la connaissance brièvement quand j'ai fait mon voyage à New York. Et c'est vrai qu'on commençait déjà l'année dernière, quand Uber était sous le feu des projecteurs, avec toute la mauvaise presse qu'il y avait autour, à voir un mouvement d'abandon de Uber pour Lyft, qui était vu comme une société sympathique, respectueuse de ses utilisateurs. Et voilà, ouais, donc ils avaient une image beaucoup plus positive qu'Uber. Alors je vous montre un petit peu le logo. Je pense que vous avez déjà dû voir un petit peu la communication de Lyft, hein, avec cette couleur rose et ce logo. Très simple. Et donc tout simplement, John Zimmer, le cofondateur et président de Lyft, a mis en avant le fait que Lyft aimerait compenser les émissions de carbone des trajets en voiture Lyft, avec le service Lyft. Il voudrait compenser l'empreinte carbone de ces trajets en faisant des investissements dans différentes actions pour pouvoir voilà, compenser un petit peu l'empreinte. Donc ça sera évidemment excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à trouver mes mots ce matin, des initiatives plutôt positives. Donc là, je peux vous les citer, hein, les différentes initiatives. Il faut juste que je les retrouve. Alors voilà, on avait notamment, donc ça sera des initiatives toutes basées aux États-Unis, qui est donc au plus près des marchés de Lyft en fait, hein, donc c'est assez logique pour eux et comme ça ils gardent une certaine visibilité sur leurs investissements. Et notamment une société qui va réduire les émissions, donc un projet de réduction des émissions dans le Michigan, un recyclage de carburant en Ohio et une ferme d'énergie, c'est pas solaire, c'est avec le vent, mais j'arrive pas à trouver le nom en français. Est-ce que vous pouvez m'aider dans la chatroom? Je suis désolée, mais alors. Oui, avec des éoliennes, ouais, une ferme d'éoliennes, tout simplement, là, c'est dans l'Oklahoma. Voilà. Fatiguée de notre Marion, courage, on est bien. Bientôt en fin de semaine, prends exemple sur le chat. Oui, désolée, hein, j'avoue que j'ai un petit peu du mal ce matin à trouver mes mots. Ce projet n'appartient pas à des copains du patron de Lyft par hasard. C'est tout à fait possible, Pascal. En effet, ce sont des sociétés qui, potentiellement, ce sont des projets qui n'existeraient pas sans l'investissement de Lyft. Donc, c'est tout à fait possible que ce soit des sociétés copains-copains avec le patron de Lyft, hein, tout à fait. Mais là où c'est intéressant, c'est quand même qu'ils ont une certaine visibilité. Et en plus, ce sont tous des projets qui ont été vérifiés sous plusieurs standards. L'American Carbon Registry, Climate Action Reserve, Verified Carbon Standard. Voilà donc des standards tiers qui permettent de vérifier la légitimité de ces projets parce que c'est un gros problème aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup de sociétés qui se vantent de vouloir compenser leur empreinte carbone sous des projets, des faux projets, des projets douteux qui en fait ne sont pas des vrais investissements pour le respect de l'environnement et la protection de l'environnement, mais qui sont en fait juste une manière de déguiser l'argent et de le garder pour eux. Là, après, a priori, tous ces projets ont été vérifiés par ces organisations et ces acteurs tiers, donc c'est plutôt rassurant. Ça montre aussi, c'est aussi dans la lignée des actions et du positionnement de Lyft au général, en général. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à adopter cette position de protection de l'environnement, de respect de l'environnement. Ils s'étaient toujours positionnés en acteurs qui souhaitaient abandonner la possession d'un véhicule, que vous et moi possédiez un véhicule, acheter un véhicule, que vous étiez owner, propriétaire, voilà, propriétaire d'un véhicule, mais plutôt d'aller plutôt sur une économie de partage de véhicules pour justement réduire l'empreinte carbone. Alors, encore une fois, on a vu hein, des articles et on en a parlé dans des précédents Techscope. Ces sociétés de VTC sont, voilà, qui avaient commencé en disant Nous souhaitons réduire le nombre de voitures en circulation et de voitures achetées par les consommateurs pour pouvoir respecter l'environnement et améliorer justement l'empreinte carbone, réduire l'empreinte carbone. Mais en fait, avec le prix qui baisse, l'adoption des usages, etc., on se rend compte au final que des personnes qui auraient marché ou pris un vélo ou pris des transports en commun sont en train de laisser tomber ces moyens de transport qui sont moins impactants au niveau de l'empreinte carbone pour ce genre de véhicule. Donc c'est là où en termes d'impact écologique, on n'est pas forcément très très bon. Mais voilà, ils essaient quand même d'avoir une portée plutôt positive et respectueuse de l'environnement. Donc c'est assez intéressant comme positionnement. Est-ce qu'ils ont un intérêt fiscal? Alors là, je ne peux pas te le dire. A priori, oui, je pense qu'il y a toujours un intérêt fiscal, mais je ne vais pas pouvoir te donner les détails, Pascal. Je n'ai pas d'informations sur ce sujet. À savoir que si, attention, pour diminuer l'empreinte carbone, il faut qu'ils utilisent des véhicules à hydrogène. Tout ce qui est véhicules électriques et compagnie, qui a priori réduirait l'empreinte carbone, ça reste une empreinte carbone importante. Voilà, les véhicules électriques ne sont pas non plus la solution parfaite. Il y a des problématiques de recyclage, de construction, de matériaux. Donc voilà, c'est pas de batterie, de gestion des batteries pour ces véhicules électriques. Donc c'est pas non plus la panacée, les véhicules électriques, hein. On fait souvent des raccourcis sur ce sujet, mais c'est pas aussi simple que ça. En effet, Lyft veut avoir une image de marque durable et belle, tout l'inverse de Uber. Bah, je pense que Uber aimerait l'avoir, mais en fait, ils s'en foutent un peu quand même. C'est pas leur priorité. Alors que là, il y a une vraie volonté a priori de respect. Oui, ou alors c'est purement de la communication marketing. Alors évidemment que c'est de la communication marketing, mais l'un n'empêche pas l'autre. Encore une fois, il ne faut pas voir la communication marketing comme juste un ramassis de mensonges. L'un n'est pas indissociable de l'autre. Enfin, avoir une stratégie marketing ne veut pas dire que ça ne fait pas partie des valeurs de l'entreprise. Normalement, le marketing sert à communiquer les valeurs de l'entreprise. Donc c'est plutôt positif et juste que les personnes soient au courant du positionnement de la marque. Il ne faut pas voir ça comme un ramassis de mensonges. On a souvent tendance à voir le marketing comme juste un ramassis de mensonges, mais au contraire, ça peut être c'est un outil de communication, mais ce n'est pas censé mentir. Voilà, marketing égale bullshit, c'est un raccourci trop facilement fait. Je sais qu'il y a eu des dérives, mais il ne faut pas non plus tout le temps faire le même raccourci, c'est trop facile. Voilà, et c'est comme je disais, c'est pas d'aujourd'hui hein, que Lyft a ce genre de volonté. Ils ont souvent montré leur engagement pour un environnement et un engagement vers un environnement respecté, des pratiques durables dans le respect de l'environnement. Donc c'est assez intéressant. Voilà, je ne vais pas tout vous détailler, mais si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à lire l'article de Wired sur le sujet, c'est assez intéressant. J'enchaîne parce qu'il est déjà 8h48 et il faut que je continue. Et on va continuer sur Instagram. Alors, petite brève sur Instagram, tout simplement. Instagram, dans la continuité de la mise en conformité avec le RGPD, et ben, tout simplement a mis à disposition de ses utilisateurs un outil pour télécharger toutes vos données sur Instagram. Donc quand je parle de toutes vos données, ben, ça parle évidemment de vos photos, vos commentaires, vos informations de profil et ben, tout le reste, il y a d'autres choses. Donc tout simplement, vous allez pouvoir demander à télécharger vos informations partagées sur Instagram. Donc c'est plutôt une bonne démarche, encore une fois. C'est sous pression de la mise en conformité avec le RGPD, mais quand même, c'est bien de le faire. C'est une bonne démarche de la part d'Instagram. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous allez pouvoir faire la demande et c'est marqué que sous 48 heures, vous allez recevoir un lien pour pouvoir télécharger toutes vos informations. Pour l'instant, l'outil est disponible uniquement sur le web, sur la version web du service, mais devrait être bientôt accessible sur évidemment les applications iOS et Android. Donc vous devriez plus avoir très très longtemps à patienter si vous n'utilisez pas ou ne souhaitez pas utiliser la version web. Donc c'est vraiment similaire à ce que Facebook a déjà mis en place, mais voilà. Donc petite brève sur le sujet, vous allez pouvoir récupérer toutes vos informations d'Instagram si à un moment donné vous en avez marre de mettre toutes vos informations chez Facebook. Parce que je vous rappelle qu'évidemment Facebook fait du partage de données entre Instagram, WhatsApp, Facebook, enfin bref, tous ces services quoi. Hein. Voilà, donc si à un moment donné vous avez supprimé vos données Facebook ou votre compte Facebook, mais vous avez encore un compte Instagram, si vous souhaitez aller plus loin, c'est potentiellement cette démarche-là. Ou tout simplement, si vous souhaitez utiliser une autre plateforme de partage de photos, eh ben vous pouvez récupérer toutes vos photos sur Instagram et ne pas les perdre ainsi et clôturer votre compte. Donc voilà, c'est une bonne démarche pour les utilisateurs. Et encore une chose pour Instagram, eh ben Instagram continue de peaufiner ses stories tout simplement. Et qu'est-ce qu'il propose cette fois-ci? Eh ben un raccourci pour les utilisateurs. Et là, je vais plutôt vous poser la question pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, au quotidien, pour les amateurs de stories dans Instagram. C'est tout simplement maintenant, vous allez pouvoir partager plusieurs photos ou plusieurs vidéos directement dans les stories. Vous n'allez plus avoir besoin de les poster une à une dans les stories. Vous allez pouvoir les sélectionner, en sélectionner plusieurs, car vous aurez accès à votre librairie. À votre, pardon, pas votre librairie, à votre bibliothèque, encore anglicisme, à votre bibliothèque de photos directement sur votre smartphone. Vous allez pouvoir y avoir accès et sélectionner plusieurs photos ou plusieurs vidéos pour les partager sur votre story, tout simplement. Merci, merci Troll pour ton petit don. Merci beaucoup. Faut faire des stories Instagram ou Facebook, le reach est meilleur où? Bah, ça dépend de ta communauté aussi, hein, je pense Android Windows. Pas concerné, nous dit Pascal. Est-ce qu'il y en a qui utilisent les stories régulièrement dans la chatroom, les stories Instagram? Parce que là, ça s'adresse vraiment à des personnes qui les utilisent de manière régulière, quoi. Parce que c'est un outil un peu plus pour, ouais, pour les habitués. Ouais, Olivier a l'air content. Sur Instagram, c'est plus utilisé que sur Facebook, ouais, les stories. Au boulot, on a tenté d'utiliser les stories Facebook. Et alors, comment ça s'est passé, Android Windows? Bof pour Jean-Pierre. Je ne sais pas comment ça marche, ces machins. Oui, toi, le tutoriel, tu ne les utilises pas. Robin non plus n'est pas intéressé. Ouais, vous n'avez pas l'air d'être des gros amateurs des stories hein, sur Instagram. Ok, bon bah en tout cas si ça ne vous intéresse pas, rapidement vous pourrez sélectionner jusqu'à 10 photos et vidéos pour un même post et les partager directement dans votre story. Donc vous pourrez même prévisualiser comment tout s'affiche en chacun des spots avant de tout uploader en une fois, tout simplement. Donc voilà, ça va faciliter le partage de plus de contenu, tout simplement, sur les stories. Toi, tu utilises au quotidien Insta, c'est très pratique. D'accord. Les stories Facebook, on avait plus de reach que les posts Facebook. Ah, c'est intéressant, Android. Ok, Android Windows. Intéressant, intéressant. Merci pour ton retour. Ok, les stories ont plus de reach que les posts Facebook. Comme quoi. Ok, intéressant. À voir si ça évolue dans le temps. Voilà pour la petite news et les nouvelles fonctionnalités d'Instagram Stories. Petite brève encore une fois. Là, c'est très très simple. C'est, je vous l'ai fait un petit peu hein, dans le sommaire. C'est Google et ses emojis Android qui finalement... emoji de pistolet d'arme à feu tout simplement et au lieu d'avoir un pistolet réaliste va utiliser un oh là là Un water gun. Un pistolet à eau. Voilà, un pistolet à eau. Voilà, donc assez. Je vous montre l'image, ça sera plus facile. Mais voilà, ils ont updaté leur emoji. Donc, c'est vraiment suivre le même mouvement exactement qu'Apple avait initié en 2016. Souvenez-vous, hein, Apple avait justement changé l'emoji de lui-même. Et du coup, Twitter ensuite l'a fait. Et ensuite, c'était Samsung qui avait aussi mis à jour ses emojis pour avoir un pistolet à eau au lieu d'une arme à feu réaliste. Et donc là où c'est intéressant, c'est que Google, justement, a mis à jour lui aussi, sous la pression et sous la majorité. Tout simplement, c'est aussi pour éviter, donc là, ce n'est pas une notion de copier, mais c'est plutôt une notion de cohérence de communication à travers les différents devices. Car imaginez encore une fois, entre un utilisateur qui fait une blague avec un SMS et qui utilise le pistolet à eau pour sa blague, et tout simplement c'est traduit en arme à feu réaliste quand c'est arrivé chez le voisin ou chez le copain, bref, au destinataire du message, eh ben, ça peut créer des quiproquos malencontreux, des problèmes de communication, et ça peut changer complètement la portée du message. Donc c'est là aussi où c'est important de faire très attention et d'avoir les mêmes emojis validés entre les différents devices. Je suis désolée, je suis très perturbée par mon chat qui vient de se réveiller et qui monopolise l'attention. Et je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a l'air catastrophé. Un whisky. Bon, je sais pas, il est passionné par quelque chose. Voilà. Donc tout simplement, voilà pour la brève. Je crois que le pistolet à eau, ça pose des problèmes dans les tweets de personnes menacées ou les tweets de Parkland. Oui, bah, je pense qu'on a envie de désamorcer aussi le discours et l'usage de ces armes à feu en changeant la portée et en mettant quelque chose d'inoffensif. C'est aussi un changement de mentalité, quoi. Donc je trouve que c'est intéressant comme démarche. Faudrait deux emojis, un pistolet à eau et un vrai gun, justement Android Windows. Je pense que c'est un vrai positionnement de la part de ces marques d'enlever le pistolet réaliste, l'arme à feu, contre un pistolet à eau pour montrer que la violence et les armes ne sont pas forcément une solution et que ce n'est pas quelque chose qui encourage l'usage de ce genre de choses. Donc c'est là où c'est intéressant comme positionnement. Et mettre tout, c'est pas, encore une fois, c'est. C'est voilà, c'est bien de faire des choix aussi. Ça permet d'orienter et de faire évoluer peut-être potentiellement les mentalités. L'attaque de YouTube sera un déclencheur, je pense pas, non, Pascal. Je pense pas. Et Whisky, il en pense quoi? Bah écoutez, je sais pas. Il est sur son arbre à chat tranquillement. Je trouve ça totalement inutile. C'est pas en enlevant un emoji qu'on va arrêter la violence. Non, Ludovic, je suis tout à fait d'accord. C'est un raccourci évidemment bien trop facile. Mais chaque petit geste compte. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact des emojis sur les communications d'aujourd'hui. Si tu banalises la violence avec des emojis, ça facilite et ça propage, ça peut encourager la propagation de menaces, de messages violents, etc. Alors que si tu le remplaces par un autre emoji qui est quelque chose d'inoffensif et qui a une notion plutôt de jeu, eh ben, ça va changer la portée de ton message et potentiellement faire évoluer aussi les communications et l'omniprésence des armes à feu, notamment aux États-Unis, va potentiellement être atténuée par le changement de la portée de ces communications. Donc, faut pas sous-estimer. Après, j'ai pas dit que ça allait arrêter les violences, mais voilà. Bizarre, ton discours sur l'emoji, ça revient au discours sur les jeux vidéo. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait enlever la violence des jeux vidéo du tout. Et en effet, encore une fois, c'est des raccourcis dangereux. Mais ça peut être intéressant Encore une fois, là, c'est la communication entre personnes et on voit aussi beaucoup, beaucoup de messages, de menaces sur les réseaux sociaux. Et je pense que là, c'est plutôt aussi sur ce sujet-là. Mais je ne parlais pas des jeux vidéo. Je ne vais pas commencer sur ce sujet. Voilà. C'est pas le même sujet. Mais voilà, vous allez tous faire le raccourci avec le jeu vidéo, c'est pas la même chose. Voilà, c'est un raccourci bien trop facile de dire faut supprimer la violence. Intéressant. Là, pour moi, je pense que c'est plutôt un acte, encore une fois, où on voit une augmentation de la violence dans les messages partagés sur les réseaux sociaux, potentiellement. Après, j'ai pas fait l'analyse, hein. Je fais de la spéculation, mais c'est là où ça peut être intéressant de voir si en enlevant certaines choses dans les communications, on peut arrêter la portée menaçante ou réduire et atténuer la portée menaçante de ces messages. Parce que là, c'est potentiellement dédramatiser des propos violents. Alors que les jeux vidéo, ils sont violents, enfin, ils ne cherchent pas à dédramatiser. Je veux dire, certains jeux sont des défouloirs et ils sont là, voilà, ça permet justement. Alors, il y a des choses qui sont plus axées sur la stratégie, il y en a qui sont plutôt sur le défouloir. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas le même message. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, de toute façon, je crois que c'est l'heure. Voilà, j'ai dépassé l'heure, donc on ne va pas continuer sur le sujet. Je termine juste pour le clin d'œil sur le sujet du singe qui avait pris un selfie, pardon, qui s'était pris en photo en selfie. Et voilà, donc la cour et la justice a rendu son verdict, tout simplement. Alors, à savoir qu'avant que la justice rende son verdict, PETA et le journaliste, enfin le journaliste, le photographe s'étaient mis d'accord. Mais en gros, voilà, la cour a rendu son verdict en disant que le singe n'avait pas de lui-même intenté l'action en justice. C'était PETA qui s'était présenté comme un ami du singe, qui avait dit défendre les intérêts du singe, mais qui en même temps, voilà, n'était pas capable de prouver les liens d'amitié avec le singe. Et en gros, il ne pouvait pas donc représenter les intérêts du singe. Donc en gros, ils ont conclu. Tout simplement que le singe n'a pas de droit légal pour comment dire, réclamer son droit au copyright sur ses photos et sur le fait que le photographe avait vendu les photos réalisées par le singe. Tout simplement. Parce que le singe n'est pas une personne, donc il ne peut pas revendiquer au copyright des photos réalisées par lui-même. Voilà, donc ce qui semble plutôt évident. Maintenant, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, le photographe n'a justement pas les droits non plus de copyright sur les photos, car ça tombe justement dans un espace vide où personne, du coup, ne possède et n'a le droit de posséder ces photos, justement, car c'est ni le photographe qui les a prises, le singe n'étant pas une personne, il ne peut pas revendiquer le copyright de ces photos. Donc, du coup, ces photos ne sont pas copyrightables, ne peuvent pas être propriétaires de quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas être propriétaire de ces photos, excusez-moi, j'ai fait l'inverse. Donc du coup, est-ce que c'est domaine public? Et ben voilà, c'est un trou dans la raquette du système légal. A priori, oui. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est l'accord, c'est 25% des revenus des ventes de cet album de photos qui donc vendait les photos de ce singe, réalisées par ce singe, vont retourner à l'endroit où ils protègent justement les singes, là où les photos ont été prises. Excusez-moi, j'ai encore une fois un peu du mal à trouver. Mais voilà, vont aller à la réserve Tanggoko en Indonésie, là où les photos ont été prises justement. Donc du coup, 25% des revenus des revenus générés par cette vente de livres vont revenir à cette réserve. Donc c'est plutôt une bonne... une bonne démarche. Évidemment, il faut amortir aussi les coûts de production de livres et potentiellement, je ne sais pas s'il y a des revenus qui reviennent aux photographes, mais ça, je ne sais pas, l'affaire ne le dit pas. Mais en tout cas, 25% des revenus du livre reviennent à la réserve, donc c'est plutôt bien. Une bonne chute au final, ouais, tout à fait. Voilà pour le petit clin d'œil, comme on vous en avait parlé dans la Techscope, je voulais vous donner le point final de l'histoire. Donc au lieu d'évoluer, on a stagné sur le procès. Ben non, on n'a pas stagné justement, Jérôme. Il a été conclu que personne ne pouvait être propriétaire de ces photos, donc ni le photographe qui s'était de lui-même décidé propriétaire des photos, ce qui n'était pas le cas, ni le singe qui n'est pas une personne au sens être humain et qui ne peut pas donc revendiquer le droit à ces photos. Et donc du coup, ces photos n'appartiennent à personne, tout simplement. Voilà, donc non, il y a un point final sur le sujet. Voilà sur le sujet. Il est 9h05, c'est la fin de ce Techscope. Je souhaite une excellente journée à tous ceux qui doivent nous quitter. Un grand merci d'avoir suivi cette émission. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour soutenir Naotech. Et puis, je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions. Merci à toi, Bug69. Très bonne journée. Et bonne journée au chat. Ouais. Petite dédicace au chat qui s'est retourné un petit peu et qui continue à dormir. Merci Android Windows. De mémoire, le photographe s'est bien retrouvé dans la merde avec cette histoire. En même temps, le photographe était aussi responsable des photos qu'il publie. Donc, publier des photos qu'il n'avait pas réalisées de lui-même, il aurait, à mon avis, je pense qu'il a dû se faire conseiller légalement. Après, il a pris le risque ou pas de les publier et ça a déclenché cette affaire. Mais c'est dans l'air du temps aussi d'être plus responsable sur les propriétaires des données et des choses qui sont partagées. Merci Matt84, bienvenue à toi en tant qu'abonné sur la chaîne. J'ai une question platinium sur le Flipboard. Merci Samuel de me le rappeler. De JP Life. Bonjour, j'aimerais savoir si vous utilisez des applications spécifiques pendant vos vacances. Très 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 bonne question. Tu sais quoi, j'y avais même pas pensé. Oui, on va utiliser des applications spécifiques, notamment CityMaps2Go. Il faut que je la mette à jour. C'est une application qui te permet d'avoir des cartes offline, les cartes où tu te rends. Donc moi, je vais télécharger du coup les cartes des îles où on va se rendre, si c'est possible. Il faut que je regarde sur l'application. CityMaps2Go, pour moi, c'est l'application que j'utilise à chaque voyage, qui me permet tout simplement de ne pas avoir, de ne pas utiliser. Oui, mais en même temps, je crois qu'on n'a plus de problème de. Non, c'est pour le roaming. Vous savez, le problème des données à l'étranger, là, où ça où vous payez plus cher, ben, généralement, je coupe ça quand je pars à l'étranger et j'utilise ce genre de carte qui permet de géolocaliser dans un endroit sans utiliser les données à l'étranger. Mais du coup, je ne sais plus si c'est très pertinent aujourd'hui. Oui, aussi, on peut télécharger des portions de cartes sur Google Maps, mais je ne trouve pas ça très pratique, Axel, comparé à l'application dédiée. Combien de livres as-tu téléchargé dans ta liseuse pour les vacances? Je suis un peu en retard sur le sujet, Techni Savoir. Je suis un peu en retard, j'ai pas encore checké la liste de livres sur ma liseuse. Quel est le meilleur casque Bluetooth selon toi? Eh bien écoute, j'ai pas encore testé de casque Bluetooth, Robin, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc je ne peux pas donner mon avis pour l'instant parce que j'en ai encore jamais testé, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Notamment, il y a un casque de Bowers & Wilkins qui me fait de l'œil, sur lequel je bave depuis quelque temps et j'aimerais bien le tester. Mais j'ai pas encore eu l'occasion pour l'instant. Je peux être modérateur, s'il vous plaît. Matt, j'ai pas vu comment tu t'es brouillé, surtout si c'est le premier live où tu es là, il faut voir. Faut voir, je demanderai l'avis de la team hôtesse. Il faut que tu fasses, faut que tu sois là plusieurs. Enfin, faut voir la récurrence de ta présence dans les lives. Voilà pour ce sujet. Quelle est la tendance que tu trouves intéressante en UX sur le web? Oula! La tendance que je trouve intéressante en UX, c'est... Alors oui, c'est le retour de la responsabilité, de la prise de conscience des designers sur leur travail, notamment avec tout ce qui est actuellement le RGPD, la vie privée, les données, etc. Je trouve ça bien, c'est... Et en même temps, ça a toujours fait partie intégrante du rôle du designer. C'est comprendre les conséquences et les impacts des prises de décision et du travail du designer sur les utilisateurs et sur la société dans le sens plus large. Et c'est vrai qu'on a, avec la démocratisation un petit peu du design, de l'expérience utilisateur, etc., on a fait souvent des raccourcis et on a un peu oublié ou perdu de vue l'impact et la responsabilité du professionnel. Voilà sur l'impact sur les utilisateurs. Et là, c'est vrai que ça revient un peu sur le devant de la scène, donc c'est bien. Après, encore une fois, ça a toujours fait partie de la définition du travail. Donc voilà. Mais la grande tendance, ouais, c'est la responsabilité du designer qui revient un peu sur le devant de la scène en ce moment. Et c'est pour ça que tu as plein de termes en ce moment qui voilà, tout le monde parle des dark patterns, etc. Dark UIs, dark UX, etc. C'est pour montrer qu'il y a des systèmes, des mauvais systèmes qui vont rendre l'utilisateur prisonnier de certains services, qui vont déclencher des mauvais comportements, etc. Mais ça, encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était possible à toute époque. Et sauf qu'il y a eu des dérives, comme tout le temps. Et là, on essaye de remettre sur le devant de la scène l'importance du designer d'être responsable de son travail. Et là, voilà, d'encourager la prise de conscience. Alors, je reviens un petit peu sur les questions. Ouais, donc c'est ça, il n'y a plus de problème de roaming en Europe. J'ai pas encore l'habitude. J'ai pas encore l'habitude sur cette notion de roaming, c'est pour ça. Pour les voyages, les réservations, Google Trips marche offline. Oui, mais je trouve que ça essaie de faire trop de choses, mais pas bien. Donc je préfère avoir une application qui est concentrée sur quelque chose, mais qui le fait bien. Ouais, pour les casques, il faut que je regarde, ouais. Marion, est-ce que tu t'y connais en écouteurs filaires avec micro? Non, pas vraiment Android Windows. C'est pas vraiment non plus quelque chose que j'utilise souvent, surtout avec le micro. Mais encore une fois, voilà, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais monter en compétence. Donc je ne dis pas non dans le futur à faire d'autres tests, soit sur des casques, soit sur des écouteurs. Coucou Marion, tu me conseilles quoi comme config Shadow PC pour jouer au dernier jeu du moment? C'est-à-dire comme config Shadow PC. Il y a plusieurs types de config et ça dépend le type de jeu auquel tu joues. Zegif, oula, j'ai du mal à lire ton pseudo. Ça dépend fortement du type de jeu aussi auquel tu joues. Il y en a qui vont être plus gourmands en ressources et en contraintes en termes de latence que d'autres. Donc ça dépend aussi du type de jeu. Tendance UX, flat design et material design 2. Ouais, ça, ouais. Enfin, c'est oui. Bien sûr. Flat design, c'est vieux quand même. Enfin, je veux dire, ça fait des années que c'est des tendances. C'est pour ça que j'en parle pas. Mais voilà. Je suis plutôt Bose. Ok. J'aime bien Bose comme marque aussi. Tu utilises un micro? Oui, j'ai un petit micro ici. Les DAC patterns, c'est abusé, les FAI en font. Ouais, oui, non, mais oui, c'est par définition, les DAC patterns, c'est des pratiques malhonnêtes, en fait. Après, voilà, ça a toujours existé, maintenant, c'est à voir à ce qu'on accepte de faire ça. Quand est-ce que Whisky ne dort pas? Quand il mange? Bah, quand je lui donne à manger, il mange. Sinon, il dort beaucoup, hein, c'est vrai. C'est un chat. Marion, si vous partez en Grèce, vu que vous restez en Europe, il n'y aura pas de hors forfait pour la data. Il sera décompté de ton forfait. Oui, j'ai encore du mal. Willy, c'est pas encore rentré dans mes habitudes. Ça fait tellement d'années qu'on a toujours des frais. Il faut toujours faire attention quand tu pars en Europe, etc. Mais merci pour l'info. Merci, merci pour l'info. Tu utilises Trivago? Non, j'ai pas utilisé Trivago, non. Oui, pour la config Shadow, pour l'instant, il n'y a qu'une config Shadow. C'est pour ça que je ne comprenais pas trop la problématique. Merci pour votre réponse. Merson, merci beaucoup pour ton super chat. Merci pour ton soutien. Oui, j'ai un Fortnite et Overwatch, donc du coup, tu as quand même des problèmes de latence. Enfin, il faut être réactif, quoi. Mais de toute façon, oui, il n'y a qu'une config Shadow pour l'instant. Je crois que dans le futur, tu pourras choisir différentes configs, mais on n'y est pas encore. Trivago est à éviter. D'accord. Trivago est à éviter. Ok. Bon, bah écoutez, il est 9h15. Wow, 9h15. Il est temps que je vous souhaite une excellente journée. Un grand merci à vous pour toutes vos questions, pour toutes vos réactions d'avoir suivi ce live. Je vous donne rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour le dernier TechScope avant les vacances. On reviendra le lundi 14 mai. Pour la suite. Et puis, très bonne journée à tous. Et bah voilà, très bon pont pour ceux qui font les ponts. Très bon jour férié pour ceux qui profitent des jours fériés. Et profitez bien et à très vite. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.